Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition et qui par conséquent vous apprendra ou vous rappellera que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore et musicale les petites images qui bougent. Et ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons nous intéresser à la carrière de Yvon-Jean Guillermin, dit John Guillermin, un réalisateur anglais, né à Londres le 11 novembre 1925 et décédé quelque part aux États-Unis le 27 septembre 2015, si vous voulez tout savoir, à l'âge de 90 ans. Alors si j'ai insisté sur le fait que le dénommé John Guillermin, que tout le monde considère comme un réalisateur anglissime, même si après on va l'écouter, il a fait des super productions, eh bien il avait des parents français qui s'appelaient Joseph et Geneviève, tout simplement. Donc c'est assez étonnant que quelqu'un qu'on associerait volontiers à la substance même du cinéma britannique, eh bien était d'origine française. D'ailleurs lui-même disait, je ne sais pas si c'était ironique ou pas, ma foi, qu'il avait un passeport britannique, mais qu'en fait il était une putain de grenouille. I have a British passport, but actually I'm a bloody frog, puisque comme vous le savez, nos amis, si, ce sont nos amis anglais, nous surnomment les grenouilles, puisque nous en mangeons. Enfin, c'est les pâtes qu'on mange. Le dénommé John Guillermin commence sa carrière en 1949 et jusqu'au début des années 60, il la poursuivra sans qu'il soit possible de l'illustrer musicalement, puisque entre 1949 et 1958, eh bien, il tourne une série de films à petit budget, essentiellement des productions policières ou autres, dont il ne reste aucune trace musicale. Peut-être qu'il y a des traces cinématographiques, j'avoue que je ne les ai pas vues. Peut-être que j'ai vu Traqué par Scotland Yard, Turn on Trial, tourné en 1957, mais je ne m'en souviens pas. Et on va commencer en écoutant un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1958, qui s'appelle en français Contre-espionnage à Gibraltar, mais dont le titre anglais est beaucoup plus explicite. Il s'appelle I Was Monty's Double, puisqu'en fait le film raconte un épisode de la Seconde Guerre mondiale dans lequel les services secrets anglais du MI5 montent une sorte d'arnaque où un personnage interprète le rôle du général Montgomery qui, en Afrique à l'époque, 1944, donnait du fil à retordre aux Allemands et donc... Il s'agit d'une de ces nombreuses histoires d'espionnage un peu rocambolesques, un peu améliorées. Dans le rôle du dit général Montgomery et de sa doublure, il y a un dénommé Merrick Edward Clifton James, duquel j'ignore tout. À côté de lui, il y a de solides acteurs anglais qu'on a beaucoup vus dans les années 50-60. John Mills, Cecil Parker, Patrick Allen, etc. La musique de ce film, elle est signée de John Addison, qu'on a aussi beaucoup entendu dans les années 60. Et on en écoute un extrait, Contre-espionnage à Gibraltar, dans 24 notes secondes.
Thank you.
l'allègre et martiale musique de John Addison pour Contre-espionnage à Gibraltar, un film tourné en 1958 par John Guillermin, on va l'appeler comme ça plutôt que Guillermin, réalisateur anglais auquel nous consacrons cette émission de ce jour. Et on va rester dans la guerre, par contre on va passer à la Première Guerre mondiale en écoutant un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1966, alors en français, c'était un très beau titre, ça s'appelait Le Crépuscule des Aigles, en anglais ça s'appelait The Blue Max. La Blue Max était une récompense donnée aux aviateurs allemands pendant la Première Guerre mondiale, puisque le film raconte l'histoire de quelques aviateurs allemands avec George Pippard dans le rôle principal, à ses côtés James Mason et Ursula Andress. Tous ces gens-là interprètent des Allemands. C'est un peu bizarre, surtout considérant James Mason, qui est quand même la quintessence du style britannique. Le résultat est valé surtout par les combats aériens. On était en 1966, donc il n'y avait rien de numérique dans tout ça, que des vrais avions de la Première Guerre mondiale. Et ma foi, mais c'était très très réussi. L'histoire elle-même, l'ascension de George Pippard dans l'aristocratie des aviateurs allemands était un peu moins intéressante. Mais bon, comme souvent, les films de guerre, ce sont les films d'action les plus intéressants. Et puis, le plus intéressant, c'était la bande originale, la musique qui était signée de Jerry Goldsmith, le grand Jerry Goldsmith, qui signa pour l'occasion une de ses premières partitions majeures. Nous n'étions qu'en 1966, l'homme avait encore beaucoup à donner. On écoute un extrait de cette bande originale, Le Crépuscule des Aigles, dans 24 notes secondes. Un extrait de la partition proprement nietzschéenne, c'est le moins qu'on puisse dire, de Jerry Goldsmith pour la bande originale du Crépuscule des Aigles, un film de John Guillermin tourné en 1966. Alors le film Il reste peu connu, mais par contre, je peux vous dire que la bande originale, c'est une des préférées des amateurs de Jerry Goldsmith. Et j'espère vous en avoir donné un avant-goût avec cet extrait. Et on va passer maintenant à un extrait de celui qui a longtemps été considéré comme le rival, mais il ne s'agissait pas de rivalité, plutôt de compagnonnage, de Jerry Goldsmith, en l'espèce le grand John Williams, toujours en activité, contrairement hélas à Jerry qui nous a quittés en 2004, John Williams qui en 1974 eh bien, signa la bande originale de ce qui est considéré comme le film catastrophe, des films catastrophes des années 70, The Towering Inferno, la tour infernale, réalisée donc par John Guillermine d'après un scénario de Stirling Siliphant et qui racontait l'histoire bien d'une tour dans laquelle se produit un incendie, évidemment de ce qui s'ensuit. Inutile de dire que une trentaine d'années plus tard, tout cela aura une étrange résonance dans les rôles principaux. Alors là, que du gratin américain, c'était le principe des films catastrophes, c'est-à-dire qu'on misait beaucoup sur les effets spéciaux et sur des apparitions plus ou moins longues de grosses vedettes. Donc là, en veux-tu, en voilà, Steve McQueen, Paul Newman, William Holden, Faye Dunaway, Fred Astaire, Robert Vaughn, etc., etc. Ils sont presque tous là et ma foi, ils ont bien raison puisque le film fut un des très très gros succès de cette année 1974. Il me semble même, mais je ne suis pas sûr, que la bande originale obtint l'Oscar, un des nombreux Oscars de John Williams. On écoute donc un extrait, La Tour Infernale, John Guillermine, John Williams dans 24 notes, seconde.
Thank you.
Voilà le style aisément reconnaissable de John Williams pour un extrait de la bande originale de La Tour Infernale, un film de John Guillermin tourné en 1974. On peut considérer que ce sera le sommet de la carrière de John Guillermin, donc réalisateur franco-anglais, on va dire, en tout cas anglais, et qui là, eh bien, connaîtra sans doute sa plus grosse production. Il faut dire que des studios rivaux, en l'espèce ceux de la 20th Century Fox et ceux de la Warner Bros, plutôt que de faire deux films chacun, un sur la tour, une tour incendiée, avaient choisi de mettre leurs forces en commun. Ma foi, je pense que chacun y retrouva ses billes, puisque si le film coûta très très cher, il rapporta encore plus. Et du coup, eh bien, cela permit à John Guillermin d'enchaîner sur une autre super production qui était un remake d'un film très très fameux, tourné en 1933 par Shostak et Cooper, King Kong. Et oui, la créature géante séduite par la belle, eh bien, 40 ans plus tard, eh bien, John Guillermin, plutôt les producteurs, et notamment Dino De Laurentiis, choisirent de mettre à nouveau en vedette ce mythe du cinéma qui était King Kong. Pour une fois, c'est un mythe qui n'est pas né de la littérature, comme beaucoup d'autres, comme Dracula, Frankenstein ou autres, mais directement du cinéma. Et du coup, en tout cas, c'est ce que prétendit à l'époque la production, ont mis les moyens pour réaliser un singe géant de 12 mètres de haut, animé par différents opérateurs, mais après le tournage, enfin longtemps après la sortie du film, eh bien, certains avouèrent qu'en fait, beaucoup des trucages avaient été réalisés tout simplement avec un homme déguisé en singe dans des décors en miniature, si vous voyez ce que je veux dire, donc un peu à la japonaise, avec des effets spéciaux tout pourri, il faut bien le reconnaître. Alors, il y avait quand même quelques scènes avec ce fameux singe de 16 mètres de long, mais il y en avait beaucoup où on faisait semblant et que c'était du faux. Parfois, c'est aussi le principe du cinéma. Par contre, il y en a une qu'elle était en taille réelle et qu'elle n'avait pas du tout de trucage et que plus que le singe lui-même, c'était elle qui crevait l'écran. C'était la belle, bien sûr, qui était interprétée par la délicieuse, absolument indispensable Jessica Lange, qui était à l'aube d'une très très grande carrière. Alors, c'était pas forcément un rôle très facile que celui d'être la chérie d'un singe géant, mais ma foi, Jessica Lange le faisait avec un art de la suggestion tout à fait réussi, et ben, on peut dire que c'était elle qui éclipsait la vedette, évidemment. À la fin du film, dans un remake bien compris, à la place de l'Empire State Building qui se trouvait dans le film original de 1933, eh bien, le dénommé King Kong montait en haut d'une des tours du World Trade Center. Ce qui là encore, comme pour la Tour Infernale, eh bien, laisse encore aujourd'hui une drôle d'impression à le regarder. Évidemment, il se sacrifiait pour la belle. Ce n'est pas les hommes qui ont tué la bête, c'est la belle, voilà, disait-on à la fin du film. Ma foi, tout ça était quand même un peu convenu et j'ai peur que ça ait très très mal vieilli, surtout qu'il y avait dans la bande originale beaucoup d'extraits disco, puisque oui, 1976, c'était quand même l'époque du disco. On va écouter par contre un extrait de la vraie bande originale signée de John Barry, encore un grand du cinéma anglais, un extrait donc de cette bande originale, King Kong 1976, dans 24 notes secondes. Thank you. Voilà, là encore, le style aisément reconnaissable de John Barry pour un extrait du King Kong de John Guillermin tourné en 1976. Alors, John Guillermin tournera 10 ans plus tard King Kong 2, King Kong Lies, mais il sera déjà à la fin de sa carrière, qui sera plutôt en demi-teinte, avec des films pas forcément très très brillants, même si pour ma part j'ai une très très grosse faiblesse pour China, Reine de la Jungle, tournée en 1984, mais les amateurs de 24 notes secondes le seront, c'est parce que j'ai une très très grosse faiblesse pour la regrettée Tanya Roberts, qui interprétait le rôle principal de China, Reine de la Jungle. On va plutôt se quitter en écoutant un extrait du dernier grand film de John Guillermin, un film tourné en 1978 d'après Agatha Christie. Ça s'appelait « Mort sur le Nil », un des romans les plus fameux à faire intervenir le dénommé Hercule Poirot, le Belge insupportable aux cellules grises, qui, dans « Mort sur le Nil », John Guillermin était interprété par Peter Ustinov. Alors, Hercule Poirot aura été interprété par beaucoup d'acteurs. Le dernier est sans doute Kenneth Branagh, même si les amateurs considèrent David Suchet, qui interpréta des dizaines de fois le rôle à la télévision comme le Hercule Poirot de tous les temps, et nous sommes d'accord avec lui. Ma foi, Peter Ustinov s'en débrouillait plutôt pas mal. Il faut dire que pour le film, il y avait beaucoup de têtes d'affiche. Alors, derrière la caméra, il y avait Anthony Schaeffer, celui d'Amadeus au scénario. Il y avait Jack Cardiff, le grand Jack Cardiff à la photo. Devant la caméra, il y avait Peter Ustinov, donc cité, mais il y avait aussi Jane Birkin, Bette Davis, Mia Farrow, etc. etc. Tout un David Niven, on l'adore, David Niven. Bref, le tout dans les paysages magnifiquement filmés de l'Égypte était, il faut reconnaître, un petit régal. Petit régal avec une cerise sur le gâteau, une bande originale signée de Nino Rota, celui du Parrain et celui de Fellini. Une bande originale tout à fait éblouissante sur laquelle on va conclure cette émission de 24 notes secondes. Voilà, pardon Nino, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.